Seigneur, nous voici à nouveau réunis pour un magnifique dimanche d'été. Le soleil brille et illumine nos campagnes et nos jardins. Illumine, nous t'en prions, également nos esprits, parce que la parole, pour que la parole éclairée y trouve son entrée. Qu'elle nous réchauffe et nous fasse grandir, comme le soleil réchauffe la terre et fait pousser les fleurs. Amen. Notre première lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 16 à 18. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Amen.
Il faut méditer ce texte que nous avons lu dans Matthieu 15. Il faut reprendre le récit. Jésus sort d'Israël et se rend en territoire étranger, en Phénicie, à Tyr et à Sidon. Les distances ne sont pas bien grandes, quelques dizaines de kilomètres, mais c'est un autre pays. Il chemine avec ses disciples lorsque surgit une femme. Elle habite la région. C'est une étrangère pour Jésus et pour ses disciples. C'est une païenne. Et cette femme est dans tous ses états. Comme une mère peut l'être lorsque son enfant va mal et qu'elle n'arrive pas à le soigner. Cette femme a entendu parler de Jésus, car sa réputation l'a précédée. On sait que Jésus s'occupe des pauvres, des malades, des sans-grades. On sait qu'il prend le temps pour écouter les gens, qu'il les regarde avec amitié. On sait qu'il prend en compte leur souffrance. On sait qu'il est pour la justice. On sait qu'il guérit. Alors, pense cette femme, pourquoi ne ferait-il pas quelque chose pour ma fille? Je crois, je suis sûre qu'il en a les moyens. Et l'apostrophe Jésus, elle lui crie : fais quelque chose pour ma fille. Quoi de plus poignant qu'une femme qui veut sauver son enfant? Or, Jésus se tait. lui, si attentif à la misère, au désarroi des gens, il se tait. Et elle continue à crier. Et les disciples de Jésus en ont assez. Elle leur casse les oreilles, pour ne pas dire autre chose. Fais la terre. Jésus n'obéit pas à ses disciples, mais à eux, il parle. Et il leur explique pourquoi il ne répond pas à cette femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ce qui signifie ma mission, mon job, c'est de m'occuper de toutes celles et tous ceux qui, dans mon peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans mon peuple, celles et ceux qui ne vont pas bien, celles et ceux que leurs mots, qu'ils soient physiques ou spirituels, font souffrir. Or, cette brave dame n'en fait pas partie de mon peuple. Elle est étrangère. Elle n'adore pas Dieu qui m'a envoyé. Et pourtant, la femme continue de supplier. Aie pitié de moi, aide-moi, fais quelque chose pour ma fille. Jésus se tourne alors vers elle et lui donne une explication de manière imagée et très choquante. Une explication de ce qu'il vient de dire à son équipe de disciples. Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants pour la jeter aux petits chiens. Autrement dit, il n'est pas bien de donner à d'autres, les étrangers, les païens, ce qui est prévu pour remettre en bonne santé les enfants de mon peuple. Préférence nationale, préférence spirituelle oblige. Mais la femme est insubmersible. Elle n'accepte pas cette réponse. Non, elle continue à croire que Jésus détient la solution de son problème, la survie de sa fille. Elle a de la mordache. Elle se met à genoux. Et elle réplique. Elle réplique en lui disant, « D'accord, tu es venu pour soigner ton peuple. Je l'admets. Mais moi, de ton côté, admets qu'on n'empêche pas les petits chiens de manger les miettes qui tombent de la table. Laisse-moi bénéficier de ces miettes. Il en restera quand même assez sur la table pour nourrir toutes celles et ceux pour lesquels tu es venu. Donne-moi les miettes de ton amour. » Jésus est remué par ce dialogue pathétique. Jésus admire la force de cette mère étrangère, païenne, qui ne connaît rien de son Père, du Dieu qu'il a mission de représenter parmi les humains. Et il lâche tout à coup. « Oh, que ta foi est grande. Il te sera fait selon ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Frères et sœurs, que d'enseignements à tirer pour nous. de cette grande histoire. D'abord, bien entendu, cette histoire nous enseigne que la mission de Jésus, elle est certes destinée au peuple juif, mais pas exclusivement à lui. Lorsque Jésus meurt sur une croix, sa mort aura une portée universelle. Lorsqu'il sortira du tombeau au matin de Pâques, sa vie ressuscitée est destinée à chacune et à chacun d'entre nous. Et dans ce texte de Matthieu, s'articule, en effet, au nationalisme originel de la mission de Jésus, son universalisme triomphant. La bonté de Jésus éclate dans sa résurrection, qui ne connaît aucune frontière nationale ni confessionnelle. Voilà une première leçon. Ce qui était national est devenu international. Ce qui était réservé est devenu pour chacune et chacun d'entre nous. Ensuite, il y a beaucoup à tirer pour nous de la ténacité de cette femme. Au départ, elle était pleine de foi, entre guillemets, dans ce qu'on lui avait dit de Jésus. Mais voilà qu'il est apparu tout différent, comme s'il voulait tromper la confiance qu'elle avait en lui. Est-ce là cet homme si bon, si amical, dont on m'avait parlé? Sont-ce là les bonnes paroles que j'ai entendues dire de lui et auxquelles j'ai cru? Ce Jésus se conduit comme s'il était mon ennemi, comme s'il ne voulait pas de moi. Il pourrait au moins dire un mot, me dire « Je ne veux rien faire pour toi ». Mais il se tait, comme un caillou. Alors que fait notre femme? Elle ne s'occupe pas des façons désagréables et dures de Jésus. Elle ne se laisse pas tromper, elle ne se fâche pas. Elle continue à croire, dure et ferme, au bien qu'elle a entendu dire de lui. Elle ne renonce pas. C'est ainsi que nous devons faire quand nous sommes dans la détresse ou dans le doute. Nous devons apprendre à nous tenir fermement aux promesses d'amour et de soutien contenues dans la parole de Dieu. Même si Dieu semble se comporter vis-à-vis de nous tout autrement, cette femme ne renonce pas. Envers et contre tout, elle s'en tient à la parole, même si cette parole, représentée par Jésus, semble vouloir lui dire non. Semble vouloir lui déchirer le cœur. Elle ne se décourage pas de cette réponse si dure. Elle continue. Elle continue à croire que la bonté de Jésus est cachée sous ce silence. Elle ne veut pas accepter que Christ ne puisse pas s'intéresser à elle, lui venir en aide, lui faire grâce. Elle reconnaît qu'elle n'est pas grand-chose, un petit chien. Mais elle ne désire rien de plus qu'un petit chien. Voilà ce qui s'appelle demeurer ferme. C'est pourquoi Jésus la relève, lui accorde ce qu'elle demande. Même s'il s'est d'abord montré dur, elle a toujours su qu'il ne voulait pas lui dire non. Frères et sœurs, quand nous, quand nous nous sommes plongés dans la détresse, qu'il nous semble que Dieu ne nous entend pas. Ne laissons pas notre cœur croire que Dieu nous dit non. Ne le laissons pas se représenter le Christ comme sans pitié. Ce n'est pas vrai. Il faut aller au-delà, nous détourner de ce sentiment de rejet et saisir ce « oui » secret profond que Dieu nous murmure au-delà du silence. Il faut imiter cette petite femme, prendre Dieu à ses propres paroles et comme dit Luther, « Oui Seigneur, c'est vrai, je ne mérite pas que tu me tendes la main, que tu me tires de la détresse, mais tu as pourtant promis ton secours aux désespérés. Ce n'est pas pour les bien portants que Christ a été envoyé parmi nous, mais pour les éclopés de la vie. Et chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, fait partie de ces éclopés. Je sais, je crois que tu ne peux pas me lâcher, car tu l'as dit, j'ai du prix à tes yeux, je compte pour toi. En se taisant, Jésus n'a pas voulu briser la confiance de cette femme, mais plutôt la renforcer. Calvin a cette jolie formule, le Christ n'a pas voulu éteindre sa foi, mais au contraire, l'enflammer davantage. En songeant à cette femme, ne perdons jamais courage. Si quelquefois Dieu semble se dérober et tarde à nous répondre, sachons que tout ce que le Christ a dit, tout ce qu'il a fait, montre que Dieu a pris parti pour nous, qu'il ne nous lâchera jamais. Voyez-vous, quand tout semble bouché dans nos vies, Dieu lui-même nous aide à conserver cette ténacité et ce courage. Et même quand notre cœur croit entendre non, Dieu nous dit toujours oui. N'en doutez jamais. La réponse vient toujours, pas forcément comme nous voudrions et quand nous voudrions, mais toujours pour notre bien, pour nous remettre debout. Dieu fait grâce, disaient les réformateurs. Il a toujours quelque chose sur sa table pour nous. Amen.